Rappelez-vous, Bouville, que nous sommes en besoin d'un pape, dit le jeune roi.
Sire, je n'aurais que cette idée en tête.
Louis X prenait soudain de l'autorité. Il aurait voulu que son messager fût déjà en route. Il poursuivit
« Au retour, vous passerez en Avignon et ferez en sorte de hâter ce conclave. Et puisque les cardinaux, paraît-il, sont gens qu'on doit acheter, vous vous ferez pourvoir d'or par messire de Marigny. »«
Où prélèverai-je cet or, sire ?» demanda ce dernier.
« Eh mais, sur le trésor, bien évidemment. »«
Le trésor est vide, sire. » C'est-à-dire qu'il y reste à peine suffisamment pour honorer les paiements d'ici la Saint-Nicolas et attendre de nouvelles rentrées, mais rien de plus.
« Comment ? Le trésor est vide, messire ? » s'écria Valois. « Et vous ne l'avez pas dit plus tôt ?»«
Je voulais commencer par là, monseigneur, mais vous m'en avez empêché. »«
Et pourquoi, à votre avis, sommes-nous dans cette pénurie ?»«
Parce que les tailles d'impôts rentrent mal quand on les prend sur un peuple en disette. »« Parce que les barons, comme vous le savez, le premier, monseigneur, rechignent à payer les aides. » Parce que le prêt consenti par les compagnies lombardes a servi pour régler au même baron les soldes de la dernière expédition de Flandre, cette expédition que vous aviez si fort conseillée.
Et que vous avez voulu clore de votre chef, messire, avant que nos chevaliers aient pu y trouver gloire et nos finances profit. Si le royaume n'a pas tiré avantage des hâtifs traités que vous êtes allés conclure à Lille, j'imagine qu'il n'en fut pas de même pour vous, car votre habitude n'est point de vous oublier dans les marchés que vous passez. J'en ai subi l'apprentissage à mon détriment. »
Ces derniers mots faisaient allusion à l'échange de leurs seigneuries respectives, de Guy Fontaine et de Champron, auxquels ils avaient procédé 4 ans plus tôt à la demande de Valois d'ailleurs, et dans lequel celui-ci s'était jugé dupé. Leur grande brouille datait de là.
« Il n'empêche, dit Louis X, que messire de Bouville doit être mis en chemin au plus tôt. »
Marigny ne parut pas avoir entendu que le roi parlait. Il se leva, et l'on eut la certitude que quelque chose d'irréparable allait se produire.
« Sire, j'aimerais que monseigneur de Valois éclaira ce qu'il vient de dire au sujet des conventions de Lille et de Marquette, ou bien qu'il retira ses paroles. »
Quelques secondes s'écoulèrent sans qu'il y eût aucun bruit dans la chambre du conseil. Puis, monseigneur de Valois à son tour se leva, faisant tressauter les queues d'hermine qui lui ornaient les épaules et la taille.
« Je déclare devant vous, messire, ce que chacun prononce dans votre dos, à savoir que les Flamands vous ont acheté le retrait de nos bannières et que vous avez en saché pour vous des sommes qui eussent dû revenir au trésor. »
Les mâchoires contractées, son visage grumeleux blanchi par la colère et les yeux regardant comme au-delà des murs, Marigny ressemblait à sa statue de la galerie Mercière.
« Sire, dit-il, j'ai entendu aujourd'hui plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre en toute sa vie.
Je ne tiens mes biens que des bontés du roi votre père, dont je fus en toute chose le serviteur et le second pendant 16 ans. Je viens d'être devant vous accusé de détournement et de commerce avec les ennemis du royaume, puisque nulle voix ici, et la vôtre avant toute, sire, ne s'élève pour me défendre contre pareil vilaini. Je vous demande de nommer commission, afin de faire vérifier mes comptes, desquels je suis responsable devant vous, et devant vous seul. »
Les princes médiocres ne tolèrent qu'un entourage de flatteurs, qui leur dissimule leur médiocrité. L'attitude de Marigny, son ton, sa présence même, rappelait trop évidemment au jeune roi qu'il était inférieur à son père. S'emportant lui aussi, Louis X s'écria
« Soit, cette commission sera nommée, messire, puisque c'est vous-même qui le demandez !»
Par cette parole, il se séparait du seul homme capable de gouverner à sa place et de diriger son règne. La France allait payer pendant de longues années ce mouvement d'humeur. Marigny ramassa son sac à documents, le remplit et se dirigea vers la porte. Son geste irrita un peu plus le hutin qui lui lança
« Et jusque-là, vous voudrez bien ne plus avoir affaire avec notre trésor ?»« Je m'en garderai bien, sire !» dit Marigny depuis le seuil.
Et l'on entendit ses pas décroître dans l'antichambre. Valois triomphait, presque surpris de la rapidité de cette exécution.
« Vous avez eu tort, mon frère, lui dit le comte d'Evreux. On ne force point un tel homme et de telle sorte.
« J'ai eu grand raison, mon frère, répliqua Valois. « Et bientôt vous m'en saurez gré. Ce Marigny est un mal sur le visage du royaume, qu'il fallait se hâter de faire crever. »
« Mon oncle, demanda Louis X, revenant impatiemment à son seul souci, quand mettrez-vous en chemin notre ambassade auprès de la cour de Naples ? Aussitôt que Valois lui eut promis que Bouville partirait dans la semaine, il leva le conseil. Il était mécontent de tout et de tous, parce qu'en vérité, il était mécontent de lui-même.